All right, 10h38, déjà beaucoup de placoteuses en studio, ben, comme là, vous pouvez si entendre.
On en profitait, t'étais pas là.
Ben ouais, salut Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain.
Bonjour, bonjour, bon matin ensoleillé, qu'on se sent revivre, renaître.
Énergisé.
Oui.
On est bien. OK, vous avez ouvert les stars. Ben merci là,
oui,
de l'avoir
là,
fait.
Il faut voir dehors. Là.
Ouais. Il y a les gars du matin, puis Pascal, c'est de véritables zombies. Là. Dès qu'il arrive, ferme. Il décide de baisser les stars.
Je comprends pas.
Denis aussi, il est zombie un peu. Là.
Ben, nous autres, on les laisse toujours ouverts. On a comme besoin de cette lumière-là.
Ouais.
Puis moi, je suis poche en circulation, fait que de voir leur ancienne, c'est pratique.
Ça te rassure.
C'est pratique de voir que je dis pas n'importe quoi. Mais non, faut les laisser ouverts, surtout aujourd'hui, le ciel est bleu, bleu, bleu.
T'as-tu écouté la game de hockey hier, Paul?
J'étais où, moi, hier?
Sont gros, sont forts, font peur.
Ben, j'écoute toujours ceux qui ont fait une belle job et qui me le résument.
OK.
C'est bon, ça.
Pourquoi j'aurais à me taper ça alors que je peux avoir un résumé extraordinaire?
Mais tu chum à la maison, il écoute le hockey, là.
Pas tant.
Pas tant.
Lui, c'est le golf, hein?
Lui, c'est le golf.
C'est le
golf. C'est un tranquille.
Oui, c'est un paisible. Mais lui, le golf, il a roulé toute la journée hier à la TV, là.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il pouvait pas aller jouer.
Puis c'est long, hein, une ronde de golf, là? C'est quoi? C'était-tu un 18 trous hier à télé?
En tout cas, moi, ça m'a paru un 18 trous, là.
Ouais.
C'est tout ça très...
Je comprends pas les gens qui regardent le golf. J'ai jamais...
Ouais, Coach Gilbert fait ça beaucoup. Coach Gilbert regarde le golf. Il regarde les compétitions de F1.
Ben ça, je comprends.
Il regarde pas juste le Canadien dans la Ligue nationale. Il regarde toutes les games. Ça prend énorme... C'est énergivore, là. Quand tu consommes autant de sport, ça consomme d'énergie.
Oui, puis tu fais rien d'autre.
Non, ben, je veux dire, il doit faire d'autres choses, il doit travailler au travers de ça, là. Mais c'est vrai que ça doit...
Mais ça te prend, tu sais, des fois, Moi, premièrement, mon rapport avec les écrans, TV, là, je parle récréative, c'est pas un rapport amour. Moi, j'aime mieux vivre ma vie que d'en être spectatrice.
Oh, c'est bien dit, ça!
Mais c'est mon feeling à moi, puis c'est pas un jugement. Mais si je m'assis devant la TV, là... c'est plus la TV maintenant, c'est Netflix. Si on choisit nos affaires, là, c'est plus la TV conventionnelle. C'est vraiment parce que c'est une soirée spéciale, parce qu'on s'est fait un petit pique-nique. Parce
c'est un événement.
C'est un événement.
Quand tu t'assois devant la télé.
Plus souvent. Mais, ou bien je suis brûlée raide, là, j'ai juste l'énergie pour me pitcher sur le divan. Puis quand t'es sur le divan. Mais moi, j'aime mieux être actrice, donc je suis très dans le mouvement plutôt que dans la contemplation.
Voilà, voilà. Et aujourd'hui, on a un beau sujet. Oui. On parle des suceurs d'énergie.
Oui, hein? Je trouve ça très
valeur,
intéressant.
C'est le terme, parce que...
Oui, c'est ça. On l'a twisté un peu.
Oui, je sais, fait exprès, là. Oui.
Bien, on aurait pu dire quoi en français?
Voleurs.
Les voleurs d'énergie.
Oui, ouais. Oui, c'est ça, les voleurs d'énergie.
Et moi, je les appelle les parasites.
Ben,
il y a des, c'est comme des, tu sais, les mouches à marbre.
Ouais, ça fait le même effet. Non, je comprends ce que tu veux dire.
Là, tu dis, mettons, ma vie, elle va bien. Là. C'est le soleil dehors. Mm-hmm. Pourquoi à tous les jours, il y a tout le temps des mauvaises choses qui t'arrivent à toi ou qui arrivent aux gens de ton entourage ou qui arrivent à tes amis, puis tu sens le besoin de mettre tout le poids de cette négativité-là sur mes épaules, alors que là, moi, ça va bien. Les mouches à marbre.
Comment on les définirait exactement, les voleurs d'énergie? Parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas toujours conscients qu'ils sont voleurs d'énergie.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est quand je connais ce qui peut voler mon énergie, j'arrête d'être épuisée parce que je les connais. Hier, justement, entre deux games de golf télévisuels, j'ai demandé à mon chum, d'après toi, qu'est-ce qui vole ton énergie? Je suis allée sur le terrain. J'y ai demandé.
C'est qu'il a dit?
Il a dit les chialeux. Puis là, j'ai fait, ouais, c'est ça. Puis là, il commence à me faire un doctorat là-dessus. Là, tu sais, je veux dire, il m'explique ses raisons. Puis là, je fais, ouais. Puis quand je prépare une chronique, moi, je me fais une tête. C'est-à-dire, j'ai déjà mon opinion, mais je vais aller prendre sûrement au moins une heure quand vous avez fait votre choix. Je vais faire une heure pour aller me faire une tête renouvelée. Qu'est-ce qu'il y a dans les... Je fais toujours plein de lectures. Puis le Dalai Lama, je l'ai bien dit, je suis allée le voir parce que lui, il a ciblé 10 voleurs d'énergie. Là, Dalai Lama, qui est supposé être une sommité dans son domaine. Et lui, ce qu'il dit, dans le point numéro 1, c'est les chialeux. Il n'a pas dit les chialeux. Il a dit l'équivalent. Les gens qui ont un message drainant et tout ça. Mais c'était les chialeux. Donc, puis là, c'est pas que des personnes, là, les voleurs d'énergie. Là. Ça, vous allez voir qu'il y a plein d'éléments, mais le chiolage nous épuise et en plus de nous vider, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il nous remplisse de négatifs. Mmh. C'est qu'il enlève le stock positif puis remplisse de négatifs.
Okay. Mais est-ce que c'est-tu parce que ces gens-là ont pas d'autres choses à raconter? Puis que ce qu'ils constatent dans leur vie, c'est que négatif. Fait qu'ils profitent des choses qu'ils ont accumulées au fil du temps pour te jaser sans avoir l'impression qu'ils te mettent tout le poids de leur négativité sur les épaules. Je pense pas que ce soit méchant de leur part, tu sais, de faire ça. Puis moi, ce que j'ai remarqué dans les dernières années, puis c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a des gens que tu vas dire, exemple Audrey, hey, il me semble que j'ai mal à la tête aujourd'hui, je file pas. Ben, il y a des gens qui systématiquement vont dire hey, moi aussi, je file pas, moi aussi, j'ai mal à la tête. Ah, moi aussi, je suis fatigué.
Oui, 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 qui ont un peu. Oui, non, mais qui font de la relance. Oui, ils font de la relance, effectivement.
C'est de la relance, ça?
Oui. C'est un gros réflexe humain.
C'est humain, ça? OK.
Oui. Quand on a une mauvaise qualité d'écoute, on relance plutôt qu'écouter l'autre. Donc, on utilise ce qu'il dit pour se préparer à la relance.
C'est spécial, pareil. Hein?
Ben, plus t'as une grand gueule, plus t'es à risque. C'est-à-dire que dans la vie, on a soit les gens...
Je fais ça?
Non, jamais.
Non.
Okay.
Non, ils sont à risque. Ça veut pas dire qu'ils sont... Si t'as de l'empathie, ça vient casser.
Je comprends,
ça vient casser. Mais dans la vie, il y a des gens qui sont meilleurs pour l'écoute, qui ont un émetteur plus faible, ouais, un récepteur plus fort. Et il y en a d'autres que c'est l'inverse.
C'est-tu un réflexe de panique, Paul? Tu sais, du genre, tu sais pas comment écouter, tu sais pas quoi dire à l'autre pour le réconforter. Fait que tu as un réflexe de parler de toi ou d'amener une situation qui te...
Ah, écoute, il y a tellement de possibilités par rapport à ça. Tu sais, il y en a qui ont une mauvaise qualité d'écoute, il y en a qui n'ont pas d'altruisme. Il y a des gens qui sont des victimites, c'est-à-dire... Puis il y a une différence entre dire « aujourd'hui, je file pas bien ». Pour moi, c'est pas du chiolage, ça. Chiolage, c'est l'effet trampoline. On s'en était-tu parlé de l'effet trampoline?
C'est vite comme ça, moi, ça
non.
me dit rien.
L'effet trampoline, c'est, pour moi, c'est ça, un chioleux, OK, ou une victimite. C'est que tu sautes, et t'es toujours à la même place. Tu brûles du gaz, tu fais brûler du gaz aux autres, mais dans 5 ans, tu vas être encore à la même place. Maudit gouvernement, maudite société, maudit job, maudit patron, maudite bonne femme, maudit je t'ai écœuré. Les chialeux, ils sautent à la trampoline. Ils sont toujours en réaction. Alors que les gens qui sont en action, eux, ils sautent avec une corde à danser. Ils sautent, mais ils se déplacent. Mm. Donc, ils trouvent des solutions, ils sont dans le positif. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir une journée où tu es à bout.
Mais ils continuent toujours d'avancer.
Ils avancent. Avec la corde à danser, c'est que tu sautes, mais tu avances. Tu es dans le mouvement positif.
Puis on peut-tu dire que les voleurs d'énergie, souvent, sont inconscients? Qui sucent du positif autour d'eux, là?
Bien, ce qui est assez surprenant, c'est que il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, puis il y a des gens que, lorsqu'ils vont l'entendre, vont faire « Ah, ouais, je fais ça, moi! » Et là, ils débarquent de la trampoline. Mais il y a des gens qui vont rester dans la trampoline. Puis, curieusement, dans les voleurs d'énergie, vous allez voir que les chialeux, c'est un des éléments extérieurs à nous. Mais moi, je vous en ai préparé plein qui sont à l'intérieur de nous. Tu comprends? Les chialeux, bien, le pouvoir que tu as, c'est de ne pas être à côté d'eux ou de ne pas écouter leur message. Mais le chiolage vient d'eux. Mais dans plein d'autres éléments, tu sais, le premier que moi, le Dalai Lama, il faut que je finisse par l'honorer, lui, il l'a mis en deuxième, les chioleux. Mais moi, je ne l'ai pas mis. Il l'a mis en premier, mais moi, je l'ai mis en deuxième.
Ce serait lequel, le premier pour toi?
Le premier, c'est les boulets.
Mais je veux pas qu'elle dise mon nom. Les boulets!
Les marteaux! Ben, je t'ai pas nommé mes boulets encore. Là.
Les boulets!
Ça veut dire
les
quoi,
boulets,
ça?
C'est quand tu te lèves le matin et que tu pèses déjà 100 000 livres parce que tu te lèves avec des boulets aux pieds. Est-ce que vous vous êtes déjà levé le matin avec l'impression que vous avez tout le poids du monde sur les épaules parce que tu traînes des boulets? Les boulets, c'est assez. Je te donne plein d'exemples, OK? Les c'est assez, ça pourrait être... C'est assez d'avoir un surplus de poids puis de me sentir tout croche dès que je me lève le matin puis de ne pas être capable d'attacher mes souliers ou pas être capable de... Ça peut être... C'est assez de travailler avec quelqu'un avec qui je ne suis pas à l'aise. C'est assez de ne pas réaliser un rêve qui est mon voyage. Tous les matins, je me lève en enviant les autres parce que moi, je n'y arrive pas. Mmh. C'est assez de ne pas avoir, je ne sais pas moi, une maison convenable dans laquelle je suis bien. Ça ne peux pas dire que tu vas avoir de l'argent pour t'en acheter une, mais tu peux peut-être regarder comment tu peux aménager quelque chose qui sera le plus proche possible de tes besoins, là, tu sais.
Fait que ça, c'est pas extérieur, c'est intérieur. C'est à toi de prendre
c'est
des
décisions.
C'est
toi qui as du pouvoir là-dessus, limité, bien sûr, par certains éléments autour, mais les boulets. Puis sais-tu quand est-ce que je m'en suis rendu compte puis pourquoi je le mets au numéro un? C'est lors de la pandémie. Je me levais le matin... J'étais quasiment en dépression. Je me disais, qu'est-ce que j'ai? Je me lève tellement lourde. Et je me suis aperçue que j'avais une... Puis je me suis assise, puis j'ai fait vraiment une liste d'épicerie, là, des to-do list des cétacés. Pas ce que je veux faire, mais que je... avant de mourir. Les cétacés, c'était déjà lourd de porter la pandémie. Je me disais... Puis j'en ai fait, puis souvent en conférence, je nomme mes deux premiers. Le premier cétacé, c'était « c'est assez de ne pas voir du monde ». Hey, moi, je suis une croqueuse de monde. Non, je devrais dire ça autrement. Là, tu devrais voir la face à Yann. Là.
Il est
j'aime pas ça, je me sens mal à l'aise. Mais je veux dire, moi, tous les jours, je vois plein de monde. J'étais en sevrage. J'étais pas bien. C'était assez. Donc, c'était un voleur d'énergie parce que j'étais pas dans ma zone de confort. Et tout le monde me disait, Paul, parce que je voulais m'équiper avec un ordinateur qui peut permettre de faire de la consultation privée, parce que j'en faisais mes lives. Là.
Tu
sais, j'étais pas équipé pour en faire 70 heures semaine. Là. Je savais bien que je commençais ça. Fait que mon fils est journaliste. Je l'ai appelé, j'ai dit, « Hey, moi, je vais payer à moitié de tes études, là. Tu te couilles le cul, tu me trouves un ordinateur. » Non, non, mais il faut que ça soit
c'est
rentable.
Là que tu payes.
Il a dit, « Mais personne n'a pensé à aller à la procure à l'université. Il en reste trois dont un rose. » J'ai dit, « Bébé, le veut. » Et j'ai commencé à faire de la consultation privée. Et encore à ce jour, je ne fais que de la consultation virtuelle. Donc, c'est une difficulté qui est devenue une opportunité. Parce que c'est ça qui est magique avec les boulets.
Ouais.
Donc, au lieu de me drainer de l'énergie, ça m'en a donné. Puis le 2, c'est Henri. C'est-à-dire, depuis des années que moi, je veux un chien qui va être un accompagnateur en intervention, mais aussi parce que mon chum n'était pas prêt. Puis tu sais, t'imposes pas un animal à quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est pas vrai. Fait que, quand on a fêté notre anniversaire de mariage durant la pandémie, tout seul au monde, je pleurais ma vie. Je suis allée sur ma to-do list, j'ai dit, c'est assez de ne pas avoir un chien. J'ai écrit ça. Puis quand il m'a dit, la journée de notre anniversaire de mariage, alors que j'avais les yeux bouffés parce que j'ai pleuré toute la journée, il a dit, demande-moi ce que tu veux.
Oh!
Je n'ai pas
abusé. C'est dangereux, ça, de dire ça à une femme.
Ben, mais peut-être qu'il connaissait.
Elle aurait pu dire, ben, marie-moi.
Mais, non, mais c'est il devait fait. Le voir venir. Il devait savoir où tu t'en allais. Là.
Oui, mais il était tellement désolé. Je pense qu'il était vraiment prêt à tout pour me consoler. Puis j'ai dit, j'aimerais que tu aimes un animal avec moi. Il a dit, je suis prêt. Puis là, ben, Henri, dans notre vie depuis 3 ans.
T'sais. Quel homme.
Ben, quelle femme aussi. Parce que s'il a envie de me donner quelque chose, parce que j'y donne des affaires aussi.
Ben oui, ben oui.
Fait c'est que ça, donnant, c'est donnant. Les boulets. Ouais. Je veux juste te donner l'exemple. Là, je vous propose, Yannick, Audrey et tous les autres, de vous asseoir. Pas là parce que vous écoutez l'émission, là. Mais vous asseoir, puis peut-être ça ne viendra pas tout de suite, mais. Marquez en haut de votre feuille, c'est assez. Puis, mettez les numéros. S'il n'y a rien qui vient, c'est que t'en as trop.
Toutes les irritants.
Ah oh ouais, s'il n'y a rien qui vient, c'est que t'en as trop.
C'est comme du trafic. Mais c'est assez, c'est des choses simples. Ça peut être, c'est assez que ma belle-mère me parle comme ça. C'est assez qu'au travail, je ne suis pas capable de dire mes affaires. C'est assez que je fasse du temps supplémentaire, puis je ne veux plus... Tu sais, les c'est assez, c'est les choses, des fois, que tu t'es habitué. C'est pas parce que tu t'habitues que c'est correct. C'est des gros grugeurs d'énergie.
Mm-hmm.
Parce que tu es toujours en adaptation.
Fait que les irritants, les cétacés...
Ouais. Commence par cétacés 2. Je te le dis, là. Fais un, comme une liste d'épicerie. 1, cétacés 2. 2, cétacés 2. 3, cétacés 2. Des fois, c'est des petites choses. C'est assez d'aller à l'épicerie après l'ouvrage. Je veux plus ça. Ça me tente pas. Mais il faut que tu manges pareil. Peut-être que ça va te donner l'occasion de créer une opportunité.
Ouais.
Peut-être que ça va être, ben, je vais la faire livrer. Je vais, tu vas créer autre chose. C'est ça la corde à danser. C'est débarque de ta maudite trampoline où tu chiales tous les jours.
Mm-hmm.
Hey, pour vrai, je trouve ça intéressant parce qu'on est habitué d'entendre. Écris ce pourquoi tu es... voyons, je suis anglophone en matin. « Grateful », c'est quoi en français? Pourquoi tu es reconnaissant? T'sais, on est habitué de faire liste où on nomme bon le positif. Faut rester positif, faut être positif. Puis des fois, ça devient un peu toxique d'être trop positif. Là. Mais j'aime ça de mettre une liste de limites, en fait. C'est de te mettre des limites.
Puis de regarder en pleine face ta vie.
Oui.
OK? Arrête de chialer, là. Ta vie, t'en as rien qu'une. Oui, tu es obligé de faire avec ce que tu veux pas des fois, avec ce que tu peux pas des fois. Mais j'ai remarqué que quand on ne voit pas bien, puis qu'on trouve des solutions ou qu'on cherche des solutions, souvent les difficultés se transforment en opportunités.
Comme c'est-tu les gens qui ont un seuil de tolérance plus élevé qui souffrent le plus de ça?
Oh, je pense qu'on est tous à risque. Pour être honnête, là, on est tous à risque. Des fois, c'est comme une intersection de plusieurs choses.
Oui, parce que les gens qui ont une grosse tolérance aux choses de la vie, aux aléas de la vie, là, ils vont encaisser plus. Tu sais, le beau-frère qui est fatigant, la belle-sœur qui est fatigante, la belle-mère qui est fatigante, les amis, les collègues qui sont fatigants, les patrons qui sont fatigants, les conjoints-conjointes qui sont fatigants. Puis ces gens-là endurent. Puis là, ils deviennent qu'à avoir un gros poids sur leurs épaules. Oui. Puis là, ils se disent, crème, mais c'est-tu à moi là, de tenir tout ce beau monde-là sur mes épaules? Tu sais, se délester, ça doit faire du bien.
À un moment donné, tu te réveilles quand tu n'as plus tes boulets. Bien, il y en aura toujours, des petites boulettes qui traînent, là, tu sais. Tu te réveilles puis tu te sens libre.
Mm-hmm.
Et moi, ce que je remarque, c'est peu importe ta personnalité, ce que tu as vécu dans l'enfance, hein, parce que moi, ma job, c'est d'accompagner ces gens-là aussi. Ce que je remarque le plus, ce qui fait qu'on garde nos boulets, c'est le manque de courage.
Aïe, aïe!
Je sais, ça frappe,
mais
là.
Mais c'est vrai, t'as tellement raison!
T'as le résumé. Le manque de courage. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière le manque de courage? C'est la peur, souvent, toutes sortes de peurs. Mais ce qui fait que tu ne changes pas ta vie, c'est le manque de courage. C'est vraiment ça. Puis souvent, le premier geste que tu vas poser, tu vas être mort de trouille, mais il va initier le prochain.
C'est fou parce que des fois, on est porteur aussi, j'ai l'impression, de bons conseils qu'on n'applique pas à nous-mêmes. Tu sais, moi, j'ai réalisé dans les derniers mois que je suis celle qui va brasser la cage de mes amis, de mon entourage. Voyons, on change quelque chose. Faites quoi? Bouge, prends action. Puis, quand je suis allée en retraite silencieuse une couple de semaines, j'ai eu la réflexion de me dire, ben oui, mais tu dis à tout le monde de bouger, mais toi, tu bouges
pas. Tu le fais pas, ouais.
Fait que t'es donc bien hypocrite. Tu comprends? T'es hypocrite envers toi-même. Là. Je pense pas que
ben,
je suis hypocrite dans
la vie.
Je pense
que t'es authentique, puis tu y crois vraiment.
En
maintenant...
fait, ce que tu fais, c'est que tu prends l'expérience des amis qui ont suivi tes conseils, puis ça a mal été.
C'est ça!
Non, ben toi, t'es comme... Tu prends tes amis comme des rats de laboratoire.
Exact.
Tu testes la marchandise en disant « OK, moi, testé sur plusieurs. »
Qu'est-ce
voir
que ça
va
marcher,
faire.
Là?
Va le garder.
Je vais te poser une question, Paul, qui est venu sur le Twitch.
Ah, oui?
Il y a quelqu'un qui nous dit « Puis si c'est quelque chose qui est en dehors de notre contrôle, ce fameux boulet-là? »
On fait notre mieux avec ce qu'on a. C'est-à-dire que dans cet élément-là, il faut voir comment je dois m'adapter. Là, je ne sais pas c'est quoi. S'il me l'écrivait, là, je pourrais y dire. Là. Ça dépend c'est quoi. Mais c'est sûr que la mort et la maladie grave, je mets ça dans un dallo à part. Là. OK? La maladie grave puis la mort, là, je vais vous mettre ça dans un dallo à part avec... On reviendra en parler. Ça, je pourrais en parler, là, tu sais. Dans des choses extrêmement graves, il y a des éléments particuliers à lesquels on doit tenir compte. Mais moi, aujourd'hui, je parle de la vie en général avec ses bons coups et ses moins bons coups. Puis ça va aller de... d'une séparation à une belle-mère avec qui je m'entends pas, avec, tu comprends, les aléas habituels de la vie. Moi, je crois qu'on a de l'influence sur ce qu'il y a autour, mais du pouvoir sur moi. Alors, quand il arrive quelque chose que tu n'as pas choisi, au lieu de dire « je suis pris au piège », dis-toi « qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'il y a là? » Puis, au départ, on voit noir. Puis après ça, la boule de neige arrête de brasser, la poussière tombe. Je vous parlais souvent de la loi du 48 heures, entre 0 et 48 heures. Puis, et parce que souvent, les solutions qui pourraient être prises, on ne veut pas les envisager. Combien de personnes me consultent? Ils me consultent avec leurs solutions. Ils ne sont pas capables de l'appliquer. C'est pas que vous n'avez pas, là. La plupart du temps, les gens, ce n'est pas des imbéciles à temps plein, là. Quand ils me consultent, c'est eux autres qui me donnent les solutions. Mais c'est-tu la bonne?
Ils sont juste pas game de faire
le faire.
Mot.
Pour ça, j'en reviens avec le courage.
Mais c'est-tu parce qu'ils passent un contrat avec toi qu'ils décident de changer du jour au lendemain pour améliorer leur qualité de vie?
Et sais-tu, je vais vous dire quelque chose, là. Les gens qui me consultent, je les verrai peut-être pas tout de suite. Tu sais, j'ai comme un réseautage d'urgence. Là. C'est sûr que si tu es suicidaire demain matin, je vais te voir tout de suite. Bien, je vais dire, OK? Mais il y a des gens... pour qui je ne les verrai pas quand leur horaire n'est pas compatible à la mienne avant un mois et demi, ça peut arriver, là, tu comprends? Et quand ils me consultent puis qu'ils me disent « Madame Paul, juste de vous avoir écrit, je vois déjà mieux », je dis « Voyez comment je suis performante! Regardez, moi, je suis bonne! »
Prends une deuxième séance!
Vous, monsieur! Mais pourquoi? Parce que le jour où tu décides
Mais tu prends action
de mettre
sur quelque
à jour.
Chose.
Ouais. Parce qu'ils vont mettre à jour, ils savent qu'ils vont me parler. Là. Le jour où tu mets... C'est un peu comme quelqu'un qui consomme. Quand il en parle à personne, son comportement n'est pas influencé par rien d'autre que de l'intérieur. Mais le jour où tu décides de le nommer, c'est que tu sors du garde-robe. Mm. Et là, tu sais que ça va. Tu es prête à assumer. Je reviens avec le courage. Tu vas être prête à assumer ce que ça va faire. Tu sais, quand ils me consultent, puis je suis au privé, ils payent cher. Bien, des fois, je leur dis... Vous pourrez me mentir si vous voulez, je vais le voir pareil, là. Mais je dis, vous payez quand même cher, pas pour me mentir, pas pour vous mentir. Fait que je pense que le jour où tu as décidé de t'engager vers quelqu'un, quelques rares cas, mais la plupart du temps, les gens sont rendus là.
Mais honnêtement, ça enlève un énorme poids, moi, je trouve, là, comme je vais parler comme patiente slash cliente, là. Tu sais, moi, le moment où j'ai décidé, mettons, de voir ma travailleuse sociale il y a une couple d'années, c'est fou le poids qui s'est enlevé de façon instantanée juste parce que j'avais pris une décision. C'est même pas une décision qui était directe à des affaires que je voulais régler, mais juste
très
le fait
bon.
De m'être dit « Bon, ben regarde, je vais, mettons, demander une aide. »
Oui.
T'sais, je me suis confiée à vous avant Noël sur le fait que j'avais eu un arrêt de travail par rapport à des choses qui se sont passées dans la dernière année. Ben, le moment où j'ai décidé que je partais 3 semaines...
À commencer à travailler avec moi.
J'ai... C'est à ce moment-là. Le pire, c'est que ça coïncide, mais ça n'a aucun rapport.
Voulez-vous qu'on
mais
en parle?
Le moment...
c'est ça. On peut faire quelque chose
ensemble.
On peut
faire une thérapie, là. Mais le moment où j'ai juste parlé au patron, je me souviens que le soir, quand je suis arrivée chez nous, il y avait, hey, mon Dieu, j'aurais pu rentrer le lendemain matin à job.
Est-ce que tu te sentais, parce que là, on parle des voleurs d'énergie, tu sentais une masse de moins, tu devais te sentir
énorme.
Plus légère.
Les problèmes étaient encore là. Oui,
se sentir peut-être écouté.
Oh. Il y a peut-être ça aussi, hein?
Oui, oui, puis sais-tu, une des choses qui nous vole de l'énergie, c'est la désorganisation et le désordre. C'est même prouvé désorganisé à l'extérieur, désorganisé à l'intérieur. À partir du moment où tu cleans tes surfaces, là, vous allez dire, Paul, je te dis pas qu'on est égal dans le ménage, là. Mais c'est prouvé que quand on est dans le désordre, Einstein a dit, dans le désordre, on refait un nouvel ordre, d'être capable de nommer nous aide à refaire de l'ordre. Parce que des fois, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est pas trop par où commencer. Et ça vole énormément de l'énergie. Pensez juste à quand vous cherchez quelque chose, puis c'est dans le désordre, là, c'est quelque chose de concret. Tu brûles
quand
l'énergie,
tu perds, tes clés.
Tu perds du temps, tu perds le nord. Donc, des fois, là, juste d'avoir une organisation intelligente chez vous. Regardez le nombre d'énergie qui est perdu à chercher là-dessus. Là. Vous allez dire, Paul, c'est rien, mais c'est 15 fois par heure. Où est-ce que j'ai mis ça, puis où est-ce que c'est, puis comment ça se fait, puis que... Ça aussi, l'organisation. Puis, je me rappelle, ma fille, quand elle était à l'université, elle a travaillé un petit peu plus dur. Puis, tu sais, c'est un génie maintenant, mais un génie organisationnel, parce qu'elle a compris qu'elle devait s'organiser pour réussir. Je disais tout le temps, Camille Sandrine, organisée à l'intérieur pour être organisée à l'extérieur. Puis, malheureusement, mes enfants ont grandi avec une intervenante en qui ils croyaient. Fait que moi, quand je disais de quoi, là, ils disaient... T'es comme une dite de bonne aventure. Quand tu me dis de quoi, ça arrive tout le temps. Fait qu'il m'écoutait.
Ouais.
Ben, elle partait jamais, jamais sans avoir organisé sa chambre parce qu'elle était sûre qu'elle allait loser son examen, tu sais.
OK. Bien, je veux te parler d'organisation puis je veux te parler d'engagement aussi. Commençons par l'organisation. Je me suis souvent fait dire que l'intérieur de mon garde-robe, l'intérieur de ma voiture va ressembler un peu à ma vie. L'intérieur de ma maison... L'intérieur de mon garage va ressembler un peu à ma vie. Si tout est en bordel chez nous, ça se peut que ce soit bordélique dans ma tête. Puis ce qui est curieux, c'est que quand je fais le ménage, exemple, d'un endroit où c'est vraiment bordélique, je sors de là puis je me sens mieux curieusement. Puis on dirait qu'il y a d'autres structures qui se forment dans ma tête puis je me sens un peu plus structuré. C'est-tu de la magie? C'est-tu de la psychologie? Je le sais pas, mais dans mon cas, moi, ça marche. L'engagement que tu parlais. Parce que moi aussi, il y a des choses que des fois, je me dis, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Bon, on procrastine et tout ça. Je le sais que j'ai un ego qui peut me nuire, mais qui peut m'aider aussi. Puis mon ego qui me nuit, j'essaie de l'aider, de l'alimenter la moins possible. Mais celle qui peut m'aider, c'est-à-dire si je prends un engagement, je ne veux pas perdre la face parce que je déteste perdre la face. Donc, je prends un engagement. En fin de semaine, je vais faire le ménage. Fait que je dis à ma conjointe, en fin de semaine, je vais travailler extrêmement fort. Je vais faire le ménage à l'extérieur. Je vais faire le ménage à l'intérieur du sous-sol ou la salle à laver. Puis je vais me lever tôt. C'est un engagement que j'ai pris. Puis ça me met dans le trouble. Parce que là, le vendredi soir, je me dis, oh boy, demain, il faut que j'aille une grosse journée. Fait que là, je vais me coucher un peu plus tôt pour me lever un peu plus tôt le samedi, pour clencher tout ce que j'ai fait dans ma journée, pour pas perdre ma face, pour pas perdre la face devant ma conjointe ou devant les gens pour qui je me serais engagé.
Ben,
fait que j'utilise mon ego, qui est un peu négatif parfois, mais à bon escient, parce que je lutte contre moi-même. Puis là, ben, je le fais, puis à la fin de ma journée, je me dis « Hey, j'ai passé au travers de tout ce que je voulais faire. » Tu m'avais parlé des fameuses listes,
oui,
Paul.
Oui.
Tu sais, je te l'ai dit, tu m'as beaucoup aidé. Moi, je suis quelqu'un qui a tout ça un peu chambranlant dans ma tête, puis je vais par priorité. Oui. Puis des fois, j'en oublie, mais si je les oublie, c'est parce qu'ils n'étaient pas prioritaires. Salutations à tous mes amis que j'ai pas appelés depuis des mois et des mois. Mais si je les oublie, c'est parce qu'ils n'étaient pas prioritaires. Mais depuis que j'ai commencé à faire des listes, puis après ça, me mettre ça en priorité, je fais plus de choses que si je faisais pas de listes.
Ah oui, c'est sûr. Bien, parce qu'à partir du moment où tu décides de faire une liste et que tu décides de te déposer, de t'organiser et de te regarder en pleine face en disant « qu'est-ce qu'il y a à faire? » Parce qu'il y a la pensée magique. Hein? Vous savez que la pensée magique, là, c'est « je finirai bien par le faire. Un bon matin, je vais me lever puis ça va me tenter. C'est pas si pire que ça. Mm-hmm. » Ça, c'est rester dans ne pas le faire parce que c'est la pensée magique. Là, ce que tu as fait, c'est tu t'es engagé en
l'engagement.
Puis en t'engageant, tu t'es organisé. Tu t'es couché plus de bonne heure. T'as évalué que tu devais te lever à telle heure, t'as déjà organisé ou fait une planif,
ouais,
sommaire de la journée. Donc, tu t'es donné les moyens. C'est la différence entre la pensée magique. Puis c'est sûr que si ça ne te tente pas aujourd'hui, puis que t'as pas pris les moyens, pourquoi ça te tenterait demain, si ça te pue au nez?
Mais l'engagement, puis tu sais, des fois, t'es pas obligé de le faire seul. Tu peux impliquer quelqu'un. Exemple, pour ce qui est de la période des impôts, là, qui aime faire ses impôts, qui aime classer ses papiers, ben tu disais à ton conjoint, ta conjointe, « Hey, on se donne-tu une journée cette semaine là où on fait notre rapport d'impôts en même temps, puis on prendra une petite bière en même temps? » Fait que là, ben la personne, elle s'est engagée elle aussi, puis oui, là, ben tu te donnes rendez-vous, puis tu le fais en même temps. Puis tu sors de là, puis tu dis, « Bien, regarde, c'est fait, on s'est engagé les deux,
on
a réussi à passer au travers. » Ben oui.
Puis, ce que tu es en train de dire couvre un autre point des voleurs d'énergie, c'est la salle d'attente. Dans la salle d'attente, c'est qu'on sait qu'il y a plein de choses qui doivent être faites, mais qui ne sont pas faites. C'est des gros grugeurs d'énergie.
Et c'est envahissant.
Parce que tu y penses tout le temps. Prenez n'importe quoi, là. « Faut que je le fasse. Ah, là, il faut que je le fasse. » Et plus tu approches de « il faut que je le fasse », plus ça devient lourd, plus ça devient... Plus
stressant.
Tu te lèves la nuit, tu y penses. Puis un bon moment donné, tu le fais, puis tu te dis « je suis tellement bien, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? »
C'est niaiseux.
C'est tellement...
J'ai retenu quelque chose de tout ce qu'on discute en ce moment. Puis en passant, c'est très apprécié des auditeurs. Oui. Là, il y a des gens qui se reconnaissent beaucoup dans le sujet qu'on traite ce matin. Paul, là, je tiens à te le dire.
Oui.
Le courage...
Oui.
Parce que ça a l'air d'être à la base de toute action, toute décision qu'on va prendre. Bon, Yann, l'engagement, c'est quelque chose qui fonctionne pour lui, mais ça vient du courage à la base. L'affaire, c'est que c'est une question plate que je vais poser, là. Mais le courage, c'est parce que quand tu ne l'as pas, tu le trouves où?
Ben écoute, c'est comme si tu me disais, Paul, je suis pas en forme, je le trouve où? Quand tu n'es pas en forme, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes?
Oui. Mais là, oui, OK. Mais toi, que je pars de ton exemple... La première chose qui m'est venue en tête, moi, c'est les étapes pour te mettre en forme. Tu sais, faire des petits changements à l'alimentation, commencer par marcher,
c'est
commencer...
C'est la même chose.
Mais, OK, c'est quoi les étapes, mettons, pour trouver le courage?
Commence par trouver un petit quelque chose qui va te faire pratiquer le courage. Commence pas par... Tu sais, des fois, les gens... OK, je vais te donner un exemple, mais fort, OK? J'accompagne malheureusement, puis je vais dire des femmes, ça peut exister chez les hommes, mais malheureusement, la violence conjugale. OK? Je vois plus de filles. Bon, vous allez me dire, les gars, c'est vrai que vous en vivez aussi, mais là, moi, dans ma pratique, là, plus souvent, c'est des femmes. C'est comme ça. Tu sais, il y a le rapport physique, là. Mais toi, moi, je te dis, je vais te conseiller, je suis sûrement moins menaçante que...
Oui, puis les gars parlent moins
veux,
aussi
veux pas,
souvent,
là, tu sais. Ouais. Fait que... Ils savent qu'ils doivent quitter le conjoint. OK? Ça prend du courage quitter un conjoint parce que c'est pas juste le quitter. Là. Vous comprenez qu'il y a une toile d'araignée qui s'est tissée autour d'elle, puis je reviendrai pas sur des choses que vous avez probablement déjà dit. Mais quand elle me dit « Paul, je fais quoi? » Je lui dis « Parle-moi d'une toute petite peur que tu as. »« Ouais, mais là, je veux quitter mon conjoint, puis je sais pas comment. Reviens avec moi. Donne-moi une toute petite peur que tu as. » OK? « Ah, moi, j'ai peur d'avoir l'air folle quand je vais au dépanneur, puis je suis pas maquillée. » Je vais te dire ça. Je dis n'importe quoi, OK? Ben pas n'importe quoi, parce que c'est vraiment ça. OK. Alors, je te donne comme défi, demain, d'aller au dépanneur pas maquillée. Ouais, mais là, j'assume pas ça. Ben, vas-y avec des lunettes fumées, si tu veux. Mais en fait, on est on est porté à regarder ce qui nous fait le plus peur, qui nous demande le plus de courage, et de travailler à atteindre ça. Alors que je suis désolée, mais si tu as monté une échelle, vas-tu commencer par le 8e barreau? Commence par une toute petite chose. Prends des forces. Ça va te permettre de voir la 2e marche, puis la 3e, puis à un moment donné, elle me dit « Pause, je suis prête à le quitter, puis je sais pas comment c'est arrivé. » Bien, parce qu'on a travaillé ensemble, la prise de confiance à chaque marche. Fait que, fais-toi un plan d'action avec... Tu sais, si tu commences à t'entraîner, là, puis ça fait 2 ans que tu t'es pas entraîné, commences-tu par faire des poids haltères pendant une heure?
Non. Mais est-ce que c'est des gens qui sont anxieux? Puis, tu sais, avec l'anxiété, là, moi, j'ai côtoyé une personne qui faisait de l'anxiété, puis je demandais tout le temps « C'est quoi le pire qui peut arriver? » Puis là, elle me disait le pire qui pouvait arriver selon elle. J'ai dit « OK, mais il n'y a pas de solution à ça. » Ben oui, il y a des solutions. Ben parfait. Donc, le pire qui peut arriver, c'est ça. Puis tu as déjà tes solutions faites d'avance. Mais visiblement, ça ne semble pas les aider. Ben, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il me semble que c'est une réflexion qui continue son chemin. Exemple, mettons, moi et Audrey, on s'entend plus. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, c'est qu'elle fasse juste le retour puis que moi, je fasse juste Marceau le midi. C'est le pire. Mais est-ce que c'est ce qu'on voudrait? Je pense pas d'un bord comme de l'autre. Donc, réglons-le ensemble. Parce que le pire qui peut arriver, c'est, puis on a déjà la solution, c'est qu'elle retourne le retour, dans le retour avec Denis, puis que moi, je fasse mon Marceau le midi tout seul sans Audrey. Mais ça fonctionne pas avec les anxieux.
Ben oui, ça fonctionne.
Ça fonctionne?
Oui, c'est une technique qui est enseignée pour les anxieux, mais celle-là est avec un bémol. Il y en a que c'est toute large, celle-là est avec un bémol. Il y a des choses qu'on peut utiliser en tout temps, celle-là, pas en tout temps, puis pas avec tout le monde, puis pas en n'importe quel temps. Parce que l'anxieux, lui, son profil, c'est de toujours penser au scénario le pire. Un anxieux, là, un vrai anxieux, là, c'est pour ça qu'il va pas bien. Parce que s'il vit quelque chose, il pensera pas « Ah, oh, peut-être qu'il peut arriver ça. » Non, il va dire « Il va arriver ça. » Puis là, c'est toujours le fatal. Donc, tu l'utilises, ça, quand le pire ne peut pas arriver ou quand le pire a un pourcentage très faible. Dans ton affaire de radio, le pire, moi, si j'étais anxieuse là, par rapport à ça, je te dirais « C'est pas le pire qui va arriver, mon homme. Le pire, c'est que je vais perdre ma job. »
À toi, tu verrais ça comme ça.
Un anxieux va voir ça comme ça.
OK.
Pas moi. Ben, oui, peut-être des fois, mais un vrai anxieux, là, avec qui je travaille, là, un vrai, lui, t'sais, il va dire, le pire, c'est que je perds ma job, puis le pourcentage que ça arrive, il est élevé.
Puis tu peux pas lui dire, ouais, mais tu vas perdre ta job, mais il y a d'autres emplois ailleurs.
Ouais, mais moi, je prendrais une autre technique à ce moment-là. Cette technique-là doit être utilisée que si le pourcentage que ça arrive est très faible ou ce qui arrive est ridicule.
Okay.
Ça, je l'ai pris, cette technique-là, un jour, avec un adolescent qui voulait pas aller à l'école. Il commence le secondaire 1, il veut pas aller à l'école. OK? Et sa mère dit, on sait pas pourquoi. Fait que, comme l'anxiété, c'est une balle qui part, qui frappe le mur, qui revient, dans certaines situations, dire ce qui peut arriver de pire, c'est d'amener la personne à voir tout de suite la balle qui frappe le mur.
Relativiser.
Mais il ne faut pas que la balle qui frappe le mur accentue des scénarios négatifs. Donc, lui, il m'a dit ce qui peut. Parce que là, je voulais savoir ce qui pouvait arriver de pire à l'école, pourquoi il n'y allait pas. Il n'avait jamais été commencé le secondaire 1. Il m'a dit qu'on m'enferme dans un casier.
Oh mon Dieu, Seigneur.
OK. Ouais, mais si tu l'avais vu, il faisait le trip de nous autres. Il chaussait des 15. Pour vrai, ça m'aidait. Fait que là, j'ai dit, regarde.
C'est comme un éléphant avec une souris, finalement.
Oui, mais qu'il ne le voit pas. Ce qui peut arriver de pire, c'est souvent quand l'évidence... Tu sais, quelqu'un qui dit « Je passe pas sur le pont parce qu'il va tomber. » Oui, peut-être un jour, mais tu comprends que le pourcentage de chance qu'on pense qu'il va tomber est assez faible, disons-le, tu comprends? Mais, fait que là, j'ai dit, un midi, je vais aller avec toi à l'école. Non, Madame Paul, ils vont m'enfermer dans le casier, tout ça. Je dis, mon trésor, je vais te protéger. Bien, même rendu sur place, puis pour m'aider, c'était pas un gros casier, c'était, tu sais, les deux petits, minces, des fois, ils n'ont deux petits, le pied passait pas, là, tu sais. Fait que là, même devant l'évidence, je lui ai dit, mon trésor, tu peux entrer dans le casier. Madame Paul, ils vont m'enfermer. Lui, il avait vu ça dans les films, tu comprends. Je dis, je vais te protéger. Bien, il a essayé de rentrer.
Il n'était pas capable.
Même l'anxieux ne voyait pas. Il était devant le casier, Yannick, là. Le pied rentrait même pas. Et moi, j'étais devant, je me disais, hey, la vie fait bien les choses. Puis là, un moment donné, il s'est arrêté, puis il m'a dit, je rentre pas.
Mais toi, t'aurais rentré.
Bon, je savais. Je savais que ça aurait été contre moi. Probablement que ma peur aurait été justifiée. Et si ça avait été moi, t'aurais pas pu prendre ça.
Exact.
Tu comprends? Fait que ce qui va arriver de pire, c'est une très bonne stratégie, Yannick. Mais si t'as devant toi quelqu'un qui... tu vends l'idée, il faut que tu sois sûr que le pire qui va arriver, c'est pas grave.
Parce que l'anxiété, on dirait que c'est un mal, tu sais, des années 2000. Là, et oui. Est-ce qu'il faisait de l'anxiété avant? Peut-être. Est-ce que c'était différent? Peut-être. Il y avait beaucoup de métiers manuels qui faisaient en sorte que tu travaillais tellement fort que, tu sais, je veux dire...
T'avais pas en tête au problème,
puis tu t'essayais de te guérir avec la tasse le soir, là, ou deux ou trois tasses. Tu sais.
Puis ce qui est particulier, c'est quand t'es en survie, t'as pas le temps d'être anxieux. Tu cherches à vivre.
Exact.
Et les gens étaient beaucoup en survie. Moi, combien de gens vont me consulter puis qui viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer très, très avancé? Puis oui, ils passent à travers toute une panoplie d'émotions. Mais quand ils s'en ont sorti, là, ils me disent, Paul, je suis plus anxieuse là que quand j'étais les deux pieds dedans. Parce que quand j'étais les deux pieds dedans, je devais me battre pour vivre.
Il y a une adrénaline qui vient avec ça. Ouais, tu réfléchis pas, tu fonces.
Tu comprends? Fait que l'anxiété, quand elle est à la bonne place, ce n'est qu'un mécanisme normal. Toi, là, tu as à l'intérieur de toi un détecteur de danger. Mm. Si je suis anxieuse pendant que je me dis « je vais peut-être mourir du cancer », je suis à bonne place.
J'ai envie... là, on a parlé des boulets intérieurs. Il y a l'extérieur aussi qu'on ne contrôle pas. J'ai comme envie, on dirait, de te demander en terminant, Paul, comment tu gères les boulets extérieurs, les voleurs d'énergie extérieure? Parce qu'intérieur, c'est plate à dire, mais ça nous appartient. Il faut faire des choix. Mais des fois, tu es pogné avec des gens dans ta famille, au travail, dans ton entourage, dans ton cercle d'amis qui t'aiment. Là. Je pense pas des fois que c'est une question d'amour, mais il y a des gens qui te drainent de l'énergie. Mm-hmm. Même si tu les aimes profondément, comment tu deals avec ça au quotidien pour pas que ça vienne t'affecter?
Bien, la première chose, c'est de te demander pourquoi ils te drainent d'énergie. Qu'est-ce qui, dans leur comportement... La première chose, c'est... Rappelle-toi tout le temps, là, quand tu es dans brume, la première question à te poser, c'est pourquoi. La deuxième, c'est comment. Je viens de te résumer. Tu viens de sauver 100 quelques piastres. Là. OK? Pourquoi? Pourquoi ils te drainent de l'énergie? Prenons un exemple fictif. Prenons ta belle-mère que tu aimes d'amour. Mm-hmm. Bon. Pourquoi elle draine de l'énergie? Parce qu'à toutes les fois que tu vas la voir, elle remet en question le fait que tu n'y vas pas assez, que tu vas toujours chez ta mère, qu'elle ne voit pas assez les enfants, qu'à toutes les fois, c'est le même discours. Donc, pourquoi tu vas cibler? Maintenant, comment? Comment? C'est de s'asseoir puis lui en parler. Ça prend du courage. Pour ça, je te dis que même quand c'est extérieur à nous, le plus difficile, c'est le fait qu'on a...
Bon, c'est dur à dire à quelqu'un, là. Hey, Yannick, tu me brûles. Là. Je suis plus capable.
Il y a peut-être une autre version. Il y a peut-être une autre façon de dire les choses.
Mais on devrait le faire. Quand quelqu'un te tire constamment du jus, tu n'as pas à endurer ça pendant des années et des années. Hey, quand c'est ta belle-mère là, qui vient te dire comment gérer ton enfant, tu peux dire, belle-maman, vous êtes la meilleure des grand-mères possibles, mais quand il est chez vous, vous avez le droit de faire exactement ce que vous me décrivez. Mm. Mais chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous demande juste un peu de respect.
Hey, ça, c'est dit. On peut-tu croire que ça sort de sa bouche? J'ai de l'espoir. Ça, c'est une version authentique, respectueuse, affirmative. Parce c'était que beau, sais-tu, hein? Sais-tu c'est quoi le problème? Si tu fermes ta gueule, là,
ouais, OK? T'accumules.
Un bon jour, tu vas mettre de la pression sur ton conjoint parce que tu vas dire « parle à ta mère », ce qui n'est pas du tout à faire.
Non.
Tu vas créer un problème dans ton couple. Tu vas créer un problème parce qu'à toutes les fois que tu vas revenir de chez la belle-mère, tu vas chialer. Puis finalement... Les gestes les plus simples, c'est d'aller vers la personne. Puis je pense que ce que Yannick a dit, ben c'est une bonne formulation.
Exact. On en fait du chemin avec Paul Lévesque, c'est le fun.
On fait de la route.
Ben, moi, je retiens le « c'est assez ».
Je te le dis, c'est assez, puis complète la phrase, elle va être surprise de ce qui sort.
Elle va probablement me sortir ça dans les prochaines heures ou les prochains jours.
Je l'écris sur ma main. Faut que je fasse ma liste de c'est assez.
C'est assez, c'est bon. Oui, wow. Puis c'est assez, on reste toujours dans la possibilité de se dire, peu importe c'est quoi, si je peux pas tout traiter, je peux faire un bout de chemin. Mm. Puis il va y avoir un allègement.
Exact. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée pour te rencontrer. On peut te trouver à quel endroit?
Paul Lévesque à commercial@yahoo.ca, paullevesque.com, c'est ça, point com?
Point net.
Hein? Point net. Mm-hmm. Voyons, comment ça se fait, je ne l'ai jamais. après ça, Paul Lévesque, pas d'accent sur Facebook, sur LinkedIn, appelez ici, dites au secours, je veux voir Paul.
Écrivez-moi, on va faire
un jeu. Me rejoindre, c'est toujours, comme acheter une pinte de lait, c'est facile.
C'est toujours un plaisir, puis passe une belle journée. Je te dirais pas que t'es comme un soleil pour nous, parce que tu veux te savoir pourquoi je te dirais pas que t'es comme un soleil pour nous?
Oui, là, oui, je veux.
T'as-tu déjà essayé de regarder le soleil?
C'est le plus laid des deux fait la grimace.
Voilà.
Le plus moche des deux fait la grimace.
Amen.
Ne manquez pas le 54e Salon Autosport de Québec du 2 au 4 mai au Centre de Foire Exposité. C'est la plus grande exposition intérieure de véhicules d'exception dans la province de Québec. C'est gratuit pour les 12 ans et moins. Le Salon de l'Autosport de Québec, c'est du 2 au 4 mai et on vous attend. Actuellement, j'ai une paire de billets. Ça me prend le site web de Paul Lévesque, tiens. 418-971-1021. 418-971-1021. Une paire de billets pour aller au Salon de l'Autosport de Québec du 2 au 4 mai. On vous attend.
Gravel dans le retour.
Qu'est-ce qui